Radio Okapi.
Des combats font rage ce samedi sur l'axe Kironko dans les territoires des massifs au nord Kivu entre les rebelles du M23 et les Wazalendo. Conséquence, la population de la région est en débandade. Des précisions dans quelques instants. Suite Kivu, la saison des pluies pointe à l'horizon. Mais quelle est la situation des sinistrés des inondations de Bushushu et Nyamukubi dans les territoires de Calais une année après? Reportage à suivre dans ce journal. La coordonnatrice sous cluster des violences basées sur le genre au sein du Fonds des Nations Unies pour la population en Ituri est l'invitée de ce journal. Brigitte Omar y dresse un tableau sombre de ces phénomènes dans la province de l'Ituri en proie à l'activisme et des groupes armés. D'abord, cette alerte qui vient de nous parvenir à la suite des informations préoccupantes sur une probable présence des substances impropres contenues dans la farine des maïs en direction de la RDC via Kasumbalesa. Le ministre congolais du commerce extérieur a organisé une réunion ce samedi avec son homologue de la Zambie qui a noté avoir reçu les mêmes informations. Cette information est contenue dans un message publié ce samedi sur le compte X de Julien Paluku Kaonga. Aussitôt, dit-il, il a instruit le secrétaire général au commerce extérieur en sa qualité de président de la commission santé et phytosanitaire à convoquer toutes affaires cessantes, ses membres et faire rapport. En attendant, écrit-il, l'œil de l'Office congolais de contrôle est à la trousse de la moindre cargaison. À toutes et à tous, bonsoir. Ce journal part du Nord Kivu. Des affrontements opposent ce samedi les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aux groupes locaux d'autodéfense, les Wazalendo, sur l'axe Kironko près de la localité de Bougouri, dans le territoire de Masisi. À la mi-journée, la situation était confuse autour de la localité de Muheto, à environ 16 km de Masisi centre, où les tirs croisés à l'arme lourde ont plongé la population dans les désarrois. Chris Mukand.
Difficile pour l'instant de dire avec précision lequel des camps sur le champ de bataille a le contrôle de la localité de Muheto. S'il y en a qui confirment déjà la chute de cette contrée, d'autres sources en revanche soutiennent que les combats débutaient vers 4h ce samedi, se poursuivraient et auraient redoublé d'intensité. Les rebelles du M23, les premiers à avoir lancé l'offensive, auraient en même temps ouvert plusieurs autres fronts. Ainsi, outre Muheto, il y aurait des combats dans un rayon comprenant les localités de Kisoma, Nyange, Kaniro, Lukopu et également du côté Katale. À Kisoma, les Wazalendo ont dû contraindre l'envahisseur à battre en retraite, après Nono, des sources dans la région. Depuis le début de la semaine qui s'achève, des combats sporadiques ont été rapportés à maintes reprises dans les localités du territoire de Masisi, obligeant le reste des populations civiles à se déplacer sans cesse. Les organisations de la société civile déplorent ce manque de respect à la période de cessez-le-feu qui devrait en principe prendre place après la trêve humanitaire. Chris Mukand, Radio Kapi, Goma.
De son côté, l'administrateur du territoire des Lubero dans cette province du Nord Kivu accuse les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise des violations du cessez-le-feu. Il affirme que ces rebelles ont à plusieurs reprises attaqué cette semaine les positions des combattants Wazalendo vers Katwa, à la sortie est de la commune rurale de Kirumba. Le colonel Alain Kiwewa assure tout de même que l'armée contrôle la situation. Il est joint par André Kitenge.
Ces derniers temps, si vous remarquez très bien, c'est l'armée rwandaise et ses supplétifs, les M23, qui sont en train de violer le cessez-le-feu. Vous l'avez suivi dans les Massissi, ils ont fait la même chose. Et ici aussi, au niveau du territoire de Lubero, ils ont fait la même chose. Ils sont allés attaquer les positions de Wazalendo qui était à Katwa. Et puis, ils ont prolongé jusqu'à Kikuvo. Et vous voyez que ça, ce sont des signes qui démontrent très bien qu'ils sont en train de violer les cessez-le-feu. Par contre, nos forces de défense gardent encore leur position initiale, donc leur position habituelle, ils sont encore là. Et à la population, je les réconforte qu'ils aient confiance aux autorités, que ce soit les autorités au niveau du territoire, que ce soit les autorités au niveau de la province, au niveau national, donc ils doivent toujours avoir confiance de toutes les autorités politico-administratives. Et en plus de cela, je leur demande également d'avoir confiance à nos forces armées de la République démocratique du Congo et nos alliés.
Au regard de cette situation sécuritaire dans la partie est du pays, l'évolution actuelle des pourparlers de Luanda n'inspire plus confiance et inquiète l'opposition politique en RDC. C'est ce qui ressort de la déclaration politique ce vendredi à Kinshasa des princes Epengé, cadre de la coalition Lamuka. Selon lui, ces pourparlers sont menés sous un fond d'hypocrisie pendant que les ennemis de la République continuent de conquérir des territoires, d'occasionner des déplacements internes et des morts de trop. Pour lui, la RDC doit carrément et simplement sortir du processus de Luanda. Prince Epenge est au téléphone d'Askin Zigbiatayoro.
La coalition Lamuka ne croit plus au pourparlers, ces fonds d'hypocrisie qui sont menés à Luanda. Nous exigeons que M. Félix Tshisekedi retire notre pays de ces pourparlers hypocrites. Continuez naïvement à croire ou à considérer que Paul Kagame est un facteur de paix et de stabilité en faveur du Congo est une faute grave. L'Angola le sait. Notre pays en a conscience que la raison pour laquelle Paul Kagame a envoyé ses militaires au Congo, ce n'est pas les FDLR. C'est une conquête territoriale. Jamais nous ferons des concessions territoriales à Kagame. La solution pour mettre fin à cette guerre, pour préserver l'intégrité de notre territoire, viendra de Kinshasa désormais et elle passera par la recherche rapide de la cohésion et de l'unité.
C'était la Prince Epenge, cadre de la coalition Lamuka, la plateforme de l'opposition. L'insécurité est aussi signalée dans plusieurs entités de la province du Congo central. À Boma, par exemple, dans la nuit de vendredi à ce samedi, 3 avenues ont été visitées par des bandits armés. Une situation similaire a été signalée dans la cité de Lukala, territoire de Mbazangongo, où les coupeurs des routes ont opéré cette nuit. Le président du cadre de concertation de la société civile du Congo central, Jules Benga, appelle les services de sécurité à multiplier les efforts et des stratégies pour éradiquer le phénomène coupeur des routes et les kuluna. C'est ce que nous explique Amatadi Nana Plurich Mambou.
À la cité de Lukala en territoire de Mbanzangungu, aux environs des 2h du matin, une attaque des coupeurs de route sur la nationale numéro 1 a été signalée à 2 km du péage de Lukala en allant vers Kinshasa. Des passagers étaient obligés d'attendre au péage jusqu'au petit matin pour continuer le chemin. La police qui est intervenue a retrouvé un camion poids lourd et une voiture avec des impacts de balles sur les pneus. La nuit de vendredi au samedi vers 3h dans la ville de Boma, les avenues Kimboa, Mateba et Kinga ont été visités par des bandits lourdement armés. Cependant, la population mobilisée a fait usage des sifflets et a fait fuir les assaillants. Cependant, selon la société civile, deux jeunes du quartier qui étaient sortis pour secourir une maison sous menace des voleurs sont blessés par balles. Dans la nuit de jeudi à vendredi au kilomètre 5 dans les territoires de Songololo, des voleurs armés ont opéré dans 3 résidences, un centre de santé et une boulangerie. Plusieurs biens de valeur ont été emportés. Et hier vendredi, une manifestation des jeunes de Songololo pour dénoncer cette recrudescence des cas de criminalité s'est soldée par mort d'homme. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
On en vient maintenant au Sud Kivu. Une année après la catastrophe de Bushushu et Nyamukubi dans le territoire de Calais, les sinistrés vivent dans l'incertitude du lendemain, surtout à l'approche de la saison des pluies et de la rentrée scolaire. Plusieurs orphelins de la catastrophe manquent de tout pour préparer la rentrée scolaire et le taux de mortalité est très élevé dans le site transitoire des Loako. Le condensé de la situation actuelle de ces sinistrés avec vous, Jean Kassami.
Sur le plan sanitaire, 12 déplacés sont décédés à Loako à cause de la distance entre ces sites et les structures de santé, renseigne le rapport du comité de gestion des sites des sinistrés de Kalehe. Les occupants des sites Katachola, Changuhe et Kasirusiru redoutent l'avènement de la saison pluvieuse. Les besoins des sinistrés sont multiples. En eau, en abri et en latrine pour ne citer que cela. Les commissions mises en place pendant la période chaude de la catastrophe ne sont plus actives, constate l'abbé Meshak Nakuhire, curé de la paroisse de Kalehe.
C'est vrai, les commissions qu'on avait instituées tout au début de la catastrophe, ces commissions existent encore, mais je dirais que on ne se rencontre plus parce que les commissions étaient chargées d'orienter les ONG qui venaient en afflux. Il y en a qui s'occupaient presque de la même chose, quoi. Alors la commission avait comme charge d'orienter les ONG pour pouvoir arriver à satisfaire les besoins au maximum.
3231 ménages sont hébergés dans 5 sites, plus 573 autres ménages déplacés de guerre venus de l'axe Minova-Lumbishi, Bukavu. Jean Kassami, Radio Okapi.
Santé dans un autre volet. Le gouvernement provincial de Kinshasa s'est dit préoccupé par la situation des manque-pox qui monte en flèche à quelques jours de la rentrée scolaire. pour y faire face, quelques mesures ont été prises au cours de la première réunion du Conseil provincial des ministres tenue le mardi, notamment la création d'un centre stratégique de santé scolaire sur la riposte contre cette épidémie. Le ministre provincial de la Santé affirme que 1548 cas sont déjà détectés par l'INRB. Suivez l'extrait du compte-rendu de cette réunion lu par le porte-parole du gouvernement provincial, Jeannot Kanola-Rose, dans cet extrait choisi pour nous par Étienne Lusumbu.
Le ministre en charge de la Santé a, dans son exposé, fait état au Conseil de la situation inquiétante due à la propagation rapide à Kinshasa de la variole de singe, dite monkeypox. À ce jour, 1548 cas ont été recensés selon l'INRB, dont les 11 zones de santé touchées et 2 cas de décès. Le Conseil a recommandé l'intensification de la sensibilisation et communication sur les gestes barrières pour protéger la population, surtout en cette période de la rentrée scolaire. Et comme recommandation, les ministres préconisent sans tarder la création de nouveaux centres de riposte, le renforcement de la surveillance dans différents points d'entrée, élaboration d'un édit interdisant la commercialisation et consommation de viande de brousse, la création d'un plan stratégique de santé scolaire sur la riposte. Dans ce chapitre, Monsieur le ministre des Finances a envisagé un décaissement de 6 à 10 millions de dollars pour faire face à cette épidémie.
Merci de nous recevoir au quartier Ewabora dans la ville de Kindu, où la session extraordinaire de juillet s'est clôturée ce vendredi à l'Assemblée provinciale du Maniema. À cette occasion, le président de cet organe délibérant se félicite du taux de réalisation des matières initialement prévues, soit 80%. Parmi ces matières, l'Assemblée provinciale a doté l'exécutif provincial de son plan quinquennal. On écoute le président Makonga Toboka Iki Claude au micro de Florence Kizalunga.
La session extraordinaire qui se clôture ces jours a été un moment décisif pour la province du Maniema. L'Assemblée provinciale a doté l'exécutif provincial d'un programme quinquennal qui limitera son action gouvernementale au strict respect de celui-ci. Il me revient de vous rappeler que la meilleure politique est celle qui résout les problèmes du peuple. D'ailleurs, au cours de la session ordinaire prochaine, les élus vont avoir l'occasion d'évaluer les réalisations des 100 premiers jours du gouvernement provincial. J'exhorte à cet effet l'exécutif à multiplier les efforts. À ce qui concerne l'ensemble provincial, j'ai un vif sentiment de satisfaction au regard des déroulements de la dite session sur les 5 matières initialement prévues sur l'acte de convocation de la session extraordinaire. 4 ont été traitées, soit une réalisation de 80% par rapport au travail abattu. Je ne peux que féliciter les honorables députés qui sont déterminés à voir la province décoller.
Culture dans ce journal. La 14e édition du festival culturel Ngoma s'ouvre ce samedi à Kisangani dans la province de la Tchopo. Environ 10 troupes théâtrales sont attendues à cette fête culturelle prévue du 24 au 30 août courant. Elle est organisée par les groupes Taxem. Objectif, donner de la visibilité aux artistes et à leurs œuvres. Radio Kapi Kisangani, Jacques Mkonkole.
Hormis les délégations de Kinshasa et une partie des Goma et des Bujumbura attendues ce week-end, les autres en provenance de Bunia et Isiro se trouvent déjà sur place à Kisangani. Au-delà des motivations purement culturelles, le groupe Taxem aimerait aussi donner du sourire notamment à la population boyomaise qui a tant souffert des affres de la guerre, comme l'explique Olivier Wamaloba, président du comité d'organisation de ce festival.
Nous leur donnons de l'espoir à travers les arts et nous essayons avec les artistes, de donner le sourire à notre grand public de Kisangani et pourquoi pas de toute la République démocratique du Congo. Donner de la visibilité aux artistes et à leurs œuvres, organiser des échanges entre artistes dans le cadre des renforcements de capacités artistiques.
Déjà ce soir, à partir des 17h heure de l'Est, le coup d'envoi sera donné avec la troupe des Goma qui va jouer la pièce « Si Jésus n'était pas Dieu » de Magloire Bolunda du groupe Taxem de Kisangani. Signalons que d'ici à la fin de ce festival, le 30 août prochain, chaque jour connaîtra 2 à 3 productions théâtrales à partir des 18h heure de l'Est. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Libye, un accord a été conclu ce vendredi entre groupes armés et organisations sécuritaires à Tripoli avec pour objectif de sécuriser les institutions et les infrastructures de la capitale libyenne. Tripoli connaît depuis plusieurs semaines de graves tensions. Par ailleurs, les discussions sur le conflit au Soudan ont pris fin ce vendredi à Genève. Débutées le 14 août, elles se sont achevées sans aboutir à un cessez-le-feu, mais avec un engagement pris par les belligérants de garantir un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire sur trois routes principales dans le pays, en proie à un conflit depuis avril 2023.
L'invité.
Plusieurs cas de violences basées sur le genre à la suite des atrocités des groupes armés sont enregistrés en Ituri. Au premier semestre de l'année en cours, au moins 6000 victimes ont bénéficié de l'accompagnement des organisations qui œuvrent dans ce secteur. D'après le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, le territoire de Djougou est la zone la plus touchée en raison de la vulnérabilité des populations en déplacement. Pour en parler, nous recevons Brigitte Omar, coordonnatrice du sous-cluster des violences basées sur le genre à UNFPA en Ituri. Elle s'entretient avec Martial Kizabiamongo.
Madame Brigitte Omari, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pour commencer, c'est quoi les violences basées sur les genres?
Merci. La violence basée sur les genres, c'est un terme générique qui constitue un acte nuisible perpétré contre la volonté d'une personne et basé sur les différences sociales attribuées entre les hommes et les femmes.
Alors, quel état des lieux dressez-vous du cas des violences basées sur les genres répertoriées dans la province de l'Ituri à ces premiers semestres de l'année 2024?
Je pourrais parler juste des tendances par rapport à la collecte que nous sommes en train de réaliser avec les acteurs membres du sous-cluster VBG en Ituri. Les tendances démontrent qu'on connaît une recrudescence de ces cas dans la province de l'Ituri et avec un accent particulier dans les territoires de Djougou, Mahagi, Irumu et aussi Mambasa. On est déjà, selon ces tendances, au-delà des 6000 cas pour le premier semestre, ce qui n'est pas vraiment minimisable.
Quelles sont les zones les plus touchées par ces abus?
Bon, je parlais plus de Djougou parce qu'il y a pour le moment beaucoup de déplacements des communautés suite aux atrocités qu'il y a là entre les conflits et les groupes armés. Et au-delà de ça, dans les communautés d'accueil, il y a vraiment une forte promiscuité. Il y a aussi le faible moyen de survie, ce qui les laisse développer des mécanismes illégaux de survie, tels que le sexe et des survies. Tous ces aspects-là font en sorte qu'il y ait de plus en plus de cas de VBG. Nous voyons aussi même dans les sites des déplacés tous les aspects nécessaires pour qu'on ait un cadre protecteurs ne sont pas réunis dans tous les sites. Alors, ça expose aussi les femmes, le fait qu'il n'y ait pas assez de lumière pour eux, qu'il n'y ait pas de toilettes bien construites, telles qu'ils pensaient vivre.
Alors, comment votre organisation compte contribuer dans l'éradication de ces fléaux qui prend de l'ampleur dans la province de l'Ituri?
Bon, UNFPA travaille sérieusement sur la question. Nous sommes en train de renforcer de plus en plus les capacités des acteurs à pouvoir dresser cette question des violences basées sur les genres. Nous mettons à disposition les outils de collecte des données à jour, notamment les circuits de référencement, qui reprend tous les services disponibles auprès desquels les survivantes pourraient se rendre pour bénéficier de l'aide. Au-delà de ça, nous travaillons aux côtés du ministère de la Santé en renforçant aussi les capacités des prestataires sanitaires et en mettant à leur disposition les kits post-viol pour la prise en charge des cas. Et sans oublier l'aspect très important aussi de la prévention, la sensibilisation à tous les niveaux. Et pour le moment, nous sommes en train de mettre en œuvre des grands projets dans le secteur de l'éducation et aussi dans le secteur de la santé où nous luttons contre les abus et exploitations sexuelles dans ces milieu-là, avec le financement de la Banque mondiale.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la lutte contre les violences basées sur les genres dans les communautés affectées?
Bon, les difficultés sont énormes, comme je vous ai dit. Le premier défi que j'ai pu évoquer, c'est le financement minime pour le moment qu'on a pour les activités tant de prévention que de réponse aux violences basées sur les genres. Cela est observé à tous les niveaux, que ce soit au niveau des agences jusqu'au niveau des organisations locales. Et c'est une situation qui ne nous permettra pas de pouvoir couvrir totalement la zone, bien que les besoins soient identifiés ça et là.
Comment faites-vous pour aller rencontrer les communautés affectées par les violences basées sur les JAR dans les zones qui sont contrôlées par les groupes armés?
Dans notre rôle de coordination, un travail de titan a été abattu. Nous avons eu des descentes dans le territoire et où la coordination a mis en place le sous-groupe de travail VBG. Donc, au travers les organisations locales et nationales qui sont basées dans ces coins, on les a constituées en sous-groupe de travail et qui interagissent avec nous à temps réel. On a pris aussi le temps de former les collides qui sont là-bas pour pouvoir orienter les autres par rapport au travail qu'ils doivent abattre dans la communauté.
Madame Brigitte Omari, merci.
Notre invité ce soir était interrogé par Martial Kiza Biamungu depuis la ville de Bounia. Fidèles auditrices et auditeurs de la fréquence de la paix, ce journal touche à sa fin. Au nom de toute l'équipe de la rédaction, Jacques-Yves Moulima à la coordination, Alain Rung à la supervision, Pierre Diassino à la mise en onde et grâce à Mzati Massanzi à la présentation, nous vous disons merci de l'avoir écouté et de les retrouver sur radiocapi.net.